Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents français, des patronnes, des patrons qui ont des idées pour faire face à la crise, des acteurs de la société qui prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple, on trouve des solutions, elles sont françaises. Et à mes côtés, bien sûr, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Vous connaissez l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, sur la rénovation, tout va bien. Vous commencez à vous emparer de MaPrimeRénov', c'est plus dur sur le neuf. Alors justement, est-ce enfin vraiment intéressant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique? On en parle jusqu'à 14h avec le président de la Fédération française du bâtiment, qui est lui-même entrepreneur dans le bâtiment.
À la une, en effet, la rénovation thermique de nos maisons. Et tiens, et si on utilisait une peinture qui réchauffe nos intérieurs? L'équipe de la France Bouge a trouvé une pépite, c'est Francinov', et nous allons les découvrir d'ici quelques minutes.
Allez, on continue d'améliorer nos maisons avec des fenêtres, il paraît que c'est assez utile. On va s'intéresser justement à une entreprise française qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est Triba, on la connaît tous, mais on en saura plus dans la saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1 La France Bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France Bouge et CCI France, notre partenaire, ont retenu Polochon et compagnie. C'est la solution pour que les enfants n'aient plus peur du noir. Oui, oui, c'est très sérieux. On découvrira le pitch à 13h45.
Et bien sûr, demain au travail, on va passer comme chaque jour un coup de fil chez une entreprise, et notamment dans une entreprise où les salariés font tout pour que tout aille bien en télétravail et que tout le monde soit le plus heureux possible.
Allez, bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Avant toute chose, on voulait vous remercier avec Emmanuel.
En effet.
Oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter La France Bouge. Vous êtes en moyenne chaque jour 441 000 auditeurs entre 13h et 14h. C'est 104 000 nouveaux auditeurs en un an. Alors avec toute l'équipe de La France Bouge que l'on remercie, Dora Nana, Quentin Paillet, Charlotte Barrican et notre réalisateur Nicolas Baudin, on va faire de notre mieux pour vous donner envie d'être encore plus nombreux.
En effet, un merci à vous tous. Et on y va du coup pour notre France Bouge spécial bâtiment. Une année difficile, mais ils ont fait partie des premiers à partir. C'était au beau milieu du premier confinement. Tout ça, bien évidemment, pour relancer les chantiers, pour continuer à travailler. Et ça bosse en ce moment.
Et on en parle avec notre témoin du jour. Bonjour Olivier Salleron.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Ce sont 50 000 entreprises, 1 500 000 salariés. Et vous-même, Olivier Salleron, vous dirigez une entreprise à Périgueux de 35 salariés. Alors on dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Alors comment se porte le secteur ?
Quand le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie.
C'est
voilà
vrai.
Le bon adage.
Mm-hmm. Et alors ?
Et donc, eh bien, le bâtiment, on peut le dire, fut un pilier en 2020 de l'entraînement du reste de l'économie vers l'activité. Et vous l'avez dit, grâce à des valeurs, grâce à un dynamisme et des valeurs travail, le bâtiment a repris à 100% les chantiers quasiment dès le mois de mai dernier, juste après le confinement. Et ça, vraiment, c'est un succès de la part des salariés, des entrepreneurs et bien sûr des organisations patronales aussi qui les renseignent.
C'est vrai que vous avez fait partie vraiment des premiers secteurs à pouvoir redémarrer une fois que les protocoles sanitaires avaient pu être mis en place. Alors si ça a été un pilier en 2020, ça reste une forme de pilier quand même là en ce moment, notamment du côté de la rénovation énergétique, puisqu'il y a une grosse révolution qui a été mise en place. Ça s'appelle MaPrimeRénov', qui a été facilitée. Maintenant, tous les propriétaires, quelles que soient leurs conditions de revenus, peuvent bénéficier d'une aide s'ils font des travaux de rénovation énergétique. Elle est plus ou moins importante en fonction des revenus. On va dire qu'elle dépend de 40% pour les plus aisés. Ça va jusqu'à 90% du montant des travaux pour ceux qui sont les moins riches. Est-ce qu'en ce moment, là, parce qu'elle est enfin en vigueur depuis quelques jours, est-ce que les Français s'en emparent ?
Alors je vous dis oui. Et pourquoi ? Parce que depuis des années, les aides en rénovation énergétique, ça existe depuis une vingtaine d'années. Depuis des années, les organisations patronales, dont la FFB, disaient « c'est trop compliqué, il faut simplifier ». Et pour une fois, depuis quelques mois, plus d'une année, le gouvernement a enfin compris et les technocrates qui quelquefois s'opposent au terrain et à nous les professionnels se sont mis tous d'accord avec nous, on a travaillé. Et on a fait quelque chose de beaucoup plus simple. Oui, à partir de cet automne, à partir de cet hiver, et encore plus, nous l'espérons, dès ce printemps, ces jours-ci, MaPrimeRénov' est en train de décoller d'une façon exponentielle. Donc c'est excessivement bien.
De façon exponentielle, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que tout explose.
C'est-à-dire que vous êtes submergé d'appels en ce
Mais
moment ?
Je pense que oui, on est très sollicité. Moi, personnellement, dans mon entreprise, beaucoup, je suis chauffagiste, donc beaucoup, beaucoup d'appels. Ce qui veut dire que les Français, avec toute la publicité qu'on a faite, tout aussi la force de la Fédération du bâtiment qui a fait voter des lois en faveur, vous l'avez dit, de l'ensemble des foyers fiscaux, c'est-à-dire l'ensemble des salaires et des Français. Donc tout le monde y a droit, différentes graduations, mais voilà, c'est beaucoup plus simple, donc il faut s'en emparer.
Alors vous dites que ça explose, il y a énormément de demandes, mais il y en a peut-être certains de nos auditeurs qui n'ont pas encore compris exactement comment ça se passait. Est-ce que la procédure est enfin simple pour accéder à tout cela ?
Alors la procédure est très simple, de notre avis elle est très simple, tout a été mis informatiquement sur un seul site, donc il suffit de remplir d'une façon assez simple ce site. On peut simuler les aides quasiment immédiatement. Donc oui, je dis, l'effort du gouvernement est très positif. Nous, on est très contents là-dessus. Alors le revers, évidemment, c'est que quand il y a beaucoup de succès, dès le mois de juillet, quand la prime rénov a été mise vraiment en route, et maintenant en automne-hiver, c'est que ça bouscule un peu au portillon.
Là, ce que vous dites à nos auditeurs, c'est attention. Soyez patients.
Pas forcément patients, mais moi je dis au service de l'État, à l'ANA en particulier, c'est l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, c'est eux qui gèrent, muscler les équipes. Parce que sinon, il va y avoir tellement de retard. On va arriver à 200 000 demandes.
Donc, quand vous dites muscler les équipes, c'est qu'il va falloir recruter aussi.
Recruter, bien sûr. Et alors, bien sûr, il y a des gens sur le carreau aujourd'hui. Il faut recruter, il faut les former. Parce que sinon...
Parce que là, ce que vous dites, c'est qu'il y a 200... Vous allez arriver à 200 000 demandes, mais derrière, les aides ne vont pas être versées. Puisque, disons-le, elles doivent être versées à la fin du chantier, sauf si les gens ont vraiment des problèmes de trésorerie. Et à ce moment-là, il peut y avoir une petite avance.
Vous comprenez bien que les dossiers qui arrivent ne sont pas forcément complets à chaque fois, puisque beaucoup de particuliers le font eux-mêmes, ce qui peut être difficile. Donc, il faut le faire. Ensuite, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui les corrige, qui demande 2-3 précisions de plus. Et en avant, les travaux peuvent se faire. Et donc, c'est ça qu'on veut. Attention aussi au retard. Quand il y a des retards, évidemment, il y a des retards de paiement derrière. Donc, on dit... muscler l'ANA, muscler les forces administratives pour que enfin MaPrimeRénov fonctionne d'une façon très claire et très nette.
Alors surtout que cette prime dépend aussi du gain énergétique apporté par le projet. Est-ce que ça signifie que les Français vont se lancer dans des travaux massifs et pas juste je vais changer de fenêtre ?
Alors je vais vous dire, plus les Français vont se lancer dans les travaux massifs, on appelle ça la rénovation globale.
Alors c'est quoi les travaux massifs ?
C'est l'ensemble. L'ensemble de l'enveloppe, l'isolation des murs intérieurs, l'isolation des murs extérieurs, le chauffage, les fenêtres, l'isolation des combles, etc. etc. Il y a une quinzaine de choses, même peut-être plus. Oui, plus on demande, plus on aura d'aide. Évidemment, le reste à charge, il faut le calculer.
C'est pas gratuit non plus. Important.
Vous l'avez dit, entre 30% jusqu'à 90% pour des familles très très modestes, et tant mieux. Ça va permettre aussi de lutter contre les passoires thermiques, des gens qui n'ont pas pu rénover leurs appartements, leurs maisons depuis des dizaines d'années.
Vous le disiez, vous êtes chauffagiste, vous avez donc une bonne idée de l'économie qu'on peut faire. Quand on fait une bonne rénovation globale moyenne, on économise combien ? Parce que certes, il y a une dépense au démarrage, mais assez rapidement, on peut faire de belles économies.
Pour être simple, on peut économiser jusqu'à 50%.
Jusqu'à 50% de la facture
de son chauffage ou de l'énergie qu'on utilise. Ça, c'est une source claire et nette, pécuniaire. C'est ce que l'on va débourser de son porte-monnaie ou pas. Donc,
mais,
oui.
Mais on prend en considération le revenu fiscal de référence aussi pour pouvoir faire le calcul.
Exactement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sur les familles très modestes, il y a un effort qui a été fait vraiment d'une façon très importante. Et bien sûr, les foyers fiscaux les plus hauts, c'est-à-dire les revenus des ménages les plus hauts, qui étaient exclus, jusqu'au 1er janvier, ont été réintégrés. Grâce aussi aux actions, je le dis, de la Fédération du bâtiment.
Donc, tout ça est extrêmement positif. On va continuer à en parler avec vous, Olivier Salleron, le président de la Fédération du bâtiment. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge dans le bâtiment, un secteur qui a immédiatement réagi au tout début de la crise et on l'entend qui va en ce moment plutôt très bien, en tout cas sur la partie rénovation, grâce à la mise en place de MaPrimeRénov. Je vous le rappelle, vous pouvez aujourd'hui tous en bénéficier, quels que soient vos revenus, pour faire des travaux de rénovation énergétique. On parle de tout cela, notamment avec Olivier Salleron, qui est le président de la Fédération française du bâtiment.
Et pour chauffer nos intérieurs tout en économisant de l'énergie, il a fallu 3 ans de recherche et de travaux pour créer une peinture très spéciale. Bonjour Jean-François Paradez.
Bonjour Elisabeth Assayat, merci pour votre invitation.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le directeur technique de Francinov. Francinov, vous avez créé une peinture thermorégulante. C'est quoi une peinture thermorégulante ? C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est une peinture qui chauffe ?
Non, c'est une peinture thermorégulante. elle va réguler la température d'une pièce. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir des pics de température, bien haut comme bas, on va... En fait, on s'est inspiré des animaux, de la nature. Hein. On a fait du biomimétisme. Vous prenez les animaux à sang froid. Mmh. On connaît tous le lézard. On va le mettre au soleil. Il se met au soleil. Il capte les calories et il peut les garder en mémoire, ce qu'on ne peut pas faire nous. Donc, on a essayé de faire la même chose. Comme nous, on ne peut pas garder les calories, on s'est dit, on va faire garder les calories par notre environnement.
Parfois, on peut les garder, mais pas pareil.
Voilà. Donc, on s'est attaché à ça. Et l'ADN de notre entreprise, c'est d'aller vers le naturel, vers la chimie verte le plus possible. Mmh. Hein, nous avons la certitude que le logement de demain, c'est de répondre à l'enjeu de la transition énergétique d'aujourd'hui. Hein.
Donc vous avez créé une peinture, comme les animaux, hein, qui ont une mémoire thermique pour survivre à l'hiver. Vous avez adapté cela dans vos peintures. Comment vous avez fait ? Je crois que vous avez mis une espèce de batterie miniature, que vous allez nous décrire, pour que cette peinture s'adapte à la température de la pièce ?
Voilà. Donc, on est parti sur le principe de la chaufferette. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la petite chaufferette qu'on a là. Hein. La difficulté de ces chaufferettes, c'est que c'est 100% chimique, et donc ce n'était pas dans notre ADN. Et on a réussi à mettre au point des matériaux changement de phase qui sont 100% naturels. Ça a été la première phase. La difficulté, c'est que ce sont ce qu'on appelle des matériaux à changement de phase, donc ça devient liquide ou solide en fonction si vous relarguez les calories ou pas. Et si vous mettez ça dans un revêtement, eh bien, ça va automatiquement migrer. Donc, on a réussi à mettre au point un système qui micronise ces matériaux et on les encapsule. En fait, ce qu'on a fait, c'est que l'on a créé des chaufferettes à l'échelle du micron. Et lorsque vous mettez ça dans une pièce, vous créez une batterie thermique sur l'ensemble des murs de votre pièce.
Et ça permet quand même une économie d'énergie assez impressionnante. Hein. Je crois que c'est 15% d'économie d'énergie quand ça fonctionne correctement.
Les chiffres de l'ADEME et CSTB réunis, effectivement, valident de 10 à 15% d'économie d'énergie.
Alors, depuis 2016, c'est commercialisé chez les professionnels, je crois que notamment dans les EHPAD. Ouais. Vous comptez vous diversifier, aller plus loin, notamment chez les particuliers ?
Oui, parce qu'effectivement, tout le monde a besoin, un, des économies d'énergie, et deux, de préserver la santé humaine et le bien-être. Hein. Et alors, effectivement, notre gamme s'étoffe. On n'est plus au thermorégulant simple, puisque maintenant, on va aussi mettre d'autres fonctions, entre autres la dépollution de l'air.
Hein, c'est-à-dire qu'on... Toujours dans cette peinture.
Toujours dans cette peinture. La dépollution de l'air et on a bien d'autres projets en tête.
Oui. Olivier Salleron, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment, vous-même entrepreneur parce que vous avez une entreprise de chauffage. On le voit, ce genre de procédé révolutionnaire montre à quel point votre industrie au global du bâtiment est en train de se réinventer, notamment parce qu'il y a tous ces chantiers de rénovation énergétique. C'est vrai pour la peinture, mais dans plein d'endroits, j'imagine.
Oui, on le voit très bien. Hein. Le bâtiment est innovant, mais depuis des dizaines d'années. Donc là, c'est un exemple de start-up qui a réussi. Monsieur est qualifié dans tout ce qu'il faut, justement, pour pouvoir installer ses produits. Donc très, très bien. On ne le sait pas assez souvent. Le bâtiment est très innovant. Nous avons une commission intelligence artificielle et innovation. Pourquoi ? Justement, pour chercher tous ces matériaux. Matériaux vraiment de start-up, matériaux biosourcés. Et là-dessus, on a aussi tellement de choses au niveau d'innovation. On ne parle pas souvent des drones, on ne parle pas souvent des exosquelettes. Je le dis, je le répète. À nous de le montrer, à nous d'en faire la publicité pour attirer les jeunes talents. On en aura besoin pour faire la rénovation énergétique.
Parce que ça va être indispensable. Voilà, pour la rénovation énergétique, on a besoin de ça pour avancer. Si on n'utilise que les techniques traditionnelles, ça va être vite, vite dépassé. On est obligé de penser au monde de demain là-dessus.
Voilà, à nous de montrer que le bâtiment, depuis des années, est innovant. Justement, en le montrant, on est peut-être resté un petit peu sur le recul hein, depuis des années. Aujourd'hui, non. Toutes ces techniques, toutes ces technologies, ces start-up sont dans le bâtiment. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le fasse savoir surtout.
Jean-François Paradès, vous aviez participé au trophée Europe 1 La France Bouge l'an dernier. Est-ce que ça... Bon, il y a eu le Covid évidemment, mais est-ce que, donc les confinements, est-ce que vous avez depuis développé votre activité ?
Alors, on l'a effectivement développé, comme je vous dis, on est toujours dans la recherche parce que c'est avant tout notre métier. Et on a effectivement eu des appels hein, suite à ça, de particuliers, ce qui nous a ouvert un petit peu la partie particulier, ce que l'on ne faisait pas avant.
Et donc ça va se développer de plus en plus.
On l'espère. Ben,
en tout cas, on vous le souhaite. Merci à vous Jean-François Paradès, le directeur technique de cette peinture thermorégulante France Innove.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on se retrouve pour la France Bouche, nous sommes en direct sur Europe 1 avec Olivier Salleron, le président de la Fédération Française du Bâtiment. Vous dirigez aussi une entreprise, vous êtes chauffagiste à Périgueux, une entreprise de chauffage et de plomberie. Vous dirigez 35 salariés. Point important à préciser, Olivier Salleron, pour bénéficier de cette prime Rénov, il faut passer par des entreprises reconnues garantes de l'environnement. Sans ce label, il n'y a pas de prime Rénov possible. Ça, c'est aussi un des gros problèmes parce qu'il faut faire attention à toutes les arnaques qu'il y a dans votre secteur, qui sont importantes.
Ben justement, les entreprises qualifiées RGE, qui doivent faire bénéficier aux clients des aides de rénovation énergétique, elles sont 60 000 quand même sur tout le territoire. Donc il y en a beaucoup. Forcément, la clientèle connaît une entreprise RGE, c'est facile aussi, c'est des sites internet.
Comment
les
on les reconnaît? Il y a un petit label? Comment
bien
on
sûr,
sait
y a
qu'elles
un
sont
RGE
reconnues garantes de l'environnement?
Garantes de l'environnement, ce qui veut dire qu'il suffit de taper le nom de l'entreprise et on va tout de suite sur un site.
Et le reste,
RGE,
c'est acheté?
Pardon?
Le reste, ça ne vaut pas la peine?
Bien sûr que non, mais les autres entreprises, il y a des autres entreprises qui peuvent faire bénéficier de TVA 5,5, mais attention, si elles ne sont pas qualifiées RGE, elles ne peuvent pas faire bénéficier. Alors, je dis ça, mais depuis quelques jours, il y a un système qui permet, pour les entreprises, de faire 3 chantiers en 2 ans, 3 chantiers seulement, pour mettre le pied à l'étrier des petites entreprises surtout.
Qui un peu comme un agriculteur qui voudrait passer au bio, ça leur permet de faire une transition vers la rénovation énergétique.
Dans ce système-là, exactement. Alors ça se met en place. Le client peut se renseigner aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'il faut le dire, il y a énormément d'arnaques, puisqu'il y a bien évidemment
attention,
toutes ces aides. Donc il faut faire très attention.
Attention déjà que la qualification RGE, c'est le minimum pour une entreprise. Donc adressez-vous au RGE.
Alors on a parlé principalement là, des particuliers pour la rénovation énergétique et également la rénovation des bâtiments publics. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement avait promis que ça irait très très vite. Est-ce que ça commence déjà à se matérialiser?
4 milliards d'euros sur les 7 milliards prévus vont aller sur les bâtiments publics, écoles, EHPAD, donc maisons de retraite, voilà, et tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est médical. Oui, ça commence. On voit les chantiers qui commencent à arriver en appel d'offres, c'est-à-dire les entreprises vont pouvoir donner quelques devis, vont commencer à faire quelques devis, mais ça commence juste là, au 1er janvier. Donc oui, c'est du travail que l'on attend avec impatience, que nos petites entreprises, nos moyennes et nos très grosses entreprises attendent aussi pour milieu 2021, 2022 et peut-être 2023. Tant mieux.
Alors il y a une mesure qui ne passe pas de votre côté, qui pourtant va, semble-t-il, dans le sens de l'environnement, puisque à partir de l'an prochain, il sera interdit d'installer un chauffage à gaz dans une maison neuve. Vous avez râlé en disant « mais quel problème de timing ? En quoi c'est si choquant ?»
Alors déjà, vous savez, les 2020, 2021 et peut-être 2022, on sera en plein Covid. On a des grosses difficultés, vous l'avez dit, le bâtiment a été arrêté à 95%. Il a été d'une résilience forte pour revenir à 100% au niveau des chantiers. Je dis souvent, c'est pas le moment de changer les règles du jeu, c'est pas le moment de nous mettre des normes en 2020, 2021 et 2022. Gardez ça pour plus tard. Et ça, c'est un coup de gueule, oui, réel. C'est même pas l'année prochaine, c'est à partir du 1er juillet 2021 que les chaudières gaz ne pourraient plus être installées dans des maisons neuves individuelles. C'est-à-dire c'est demain. Alors, qu'on nous sorte des normes, tout ce que l'on veut, la réglementation...
Mais là, le gouvernement n'a pas l'air d'avoir envie de revenir dessus.
On discute. On discute au niveau des délais, au niveau des contenus.
Ils discutent beaucoup, monsieur Parent.
Et sachez que la Fédération du bâtiment et le bâtiment en général est innovant. Il est pour la réglementation environnementale, il est pour construire durable, il est pour construire écologiste. Là-dessus, qu'on ne nous dise pas qu'on est contre.
Alors, vous dites qu'il ne faut pas changer les règles maintenant. Pourtant, il y a un mouvement massif. Le gouvernement a aussi décidé qu'il ne serait plus possible de louer ce qu'on appelle les passoires thermiques classées G d'ici à 2023. Le mouvement est enfin enclenché, d'après vous?
Alors, ce que j'ai entendu, c'était ça date de quelques heures. En fait, ce serait plutôt 2028. Donc, voilà.
Progressivement à partir de 2023, pour être précis.
Progressivement. Quand on dit...
C'est 80 000 logements qui sont concernés.
Dans 7 ans, les 80 000 logements, donc je pense qu'on aura le temps de se retourner, de rénover justement ces logements et de trouver des solutions aux propriétaires qui n'en ont pas les moyens, puisqu'en fait, ils rentrent dans ma prime rénov. Et ça, c'est aussi une victoire de la Fédération du bâtiment. Les propriétaires bailleurs comme les copropriétaires rentrent dans ma prime rénov, ce qui veut dire qu'ils vont avoir des aides pour rénover tout ça. Donc, à mon avis, d'ici 2028, on ne sera pas si mal que ça. Là, le coup de gueule, et je le redonne, quand on change les règles du jeu, là, ces jours-ci, pour dans 6 mois, je dis, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Soyons réalistes, pragmatiques, surtout pendant une époque aussi difficile pour l'économie française.
Une époque difficile, et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, ont tout de même besoin de changer, de faire des travaux dans la maison, hein, le chauffage, mais aussi les fenêtres. D'ailleurs, les fenêtres, j'imagine que c'est une demande qui revient systématiquement dans vos chantiers.
Oui, bien sûr. Quand on pense rénovation énergétique, on pense aux fenêtres, on pense...
C'est quoi une bonne fenêtre ?
Une bonne fenêtre, c'est une fenêtre qui isole bien par l'extérieur. On peut se douter que le froid ou le chaud, en été, attention, rentre par les fenêtres, surtout aussi par les toitures. Donc oui, la demande au niveau des fenêtres est très importante. Là où on est un petit peu déçu, sachez que MaPrimeRénov, alors je ne vais pas dire des choses négatives sur MaPrimeRénov là-dessus, parce qu'on est très satisfait, mais suivant les revenus, on peut avoir droit entre 40 euros par fenêtre jusqu'à 180 euros par fenêtre.
Vous dites qu'il aurait fallu mettre un petit coup de pouce.
Ben, il faut mettre un petit coup de pouce. Je dis,
mais c'est parce qu'il avait été aussi prouvé que parfois le seul changement de fenêtre ne sert pas à grand-chose. Donc c'est pour ça qu'ils avaient considéré que c'était de temps en temps un petit changement d'appoint pas totalement indispensable.
C'est vrai, mais quand on veut sauver la planète, par le bâtiment, il faut mettre les moyens en face.
Allez, justement, on va aller dans les années 80 parce qu'une entreprise, à cette époque-là, se spécialisait déjà dans les fenêtres. C'est telle qu'il lance en France les fenêtres en PVC.
Oui, elle s'appelle Triba et c'est la saga du jour dans la France Bouge, raconté par Charlotte Darrican.
Europe 1, la France bouge, la saga.
L'histoire de Triba remonte aux années 40. Johann Triba fonde une menuiserie en Silésie, petit pays non loin de la Pologne. En 1945, il s'installe en Allemagne, à Baden-Baden, à proximité de la frontière française. Une frontière qu'ils vont définitivement franchir en 1980, quand Johannes Triba, troisième génération et actuel président, délocalise les locaux en Alsace à Gundershofen et se lance dans la menuiserie PVC, avec 15 personnes qui produisent une vingtaine de fenêtres par jour. Marc Defler, directeur général de Triba.
On est dans les années 80 et c'est vrai que le PVC à ce moment-là fait une percée spectaculaire sur le marché. Donc les premiers qui ont su saisir et comprendre cette tendance de marché ont bien évidemment récolté les fruits de cette très forte croissance et puis également le marché de la rénovation. Donc le produit PVC, de par sa simplicité mais aussi sa résistance, répondait à l'ensemble des critères qui en faisaient à ce moment-là la matière phare sur le marché.
Le premier magasin ouvre en 1984. Les Français ont à cœur de prendre soin de leur intérieur. Les fenêtres Triba s'imposent rapidement sur le marché et se développent avec des gammes de produits comme des portes ou des vérandas, dans des matériaux plus résistants comme le bois et l'aluminium, qui sont plus respectueux de l'environnement.
Il faut savoir que Triba, c'est 30 ans de garantie sur l'ensemble de sa gamme, ce qui fait de nous un acteur très reconnu sur le marché en termes de solidité, de résistance et de fiabilité de nos produits. Chez Triba, nous sommes très attachés à l'environnement, que ce soit sur la maîtrise de l'énergie, mais également la gestion des déchets, sur lesquels nous avons un système de recyclage.
Une entreprise qui est fière de fabriquer à 100% ses fenêtres, portes et vérandas en France.
Ah oui, là... Pour Triba, l'ensemble de nos usines sont situées en France. Donc on a une usine à Gundershofen, nous avons une usine en Mayenne, nous avons une troisième usine qui se trouve à nord-est d'Angers et nous avons également un site de production qui se trouve tout près de Gundershofen. C'est extrêmement important de le préciser, la totalité de la fabrication est bien française.
Numéro 1 du marché de la rénovation de fenêtres et de portes, Triba aujourd'hui c'est plus de 300 magasins en France, une entreprise touchée par la crise mais qui a su rebondir et pour laquelle la prime Rénov pourrait être un dispositif utile pour retrouver une croissance rapide.
Et c'était donc la saga du jour racontée par Charlotte Barrican. Et pour tous ceux qui seraient intéressés par ma prime Rénov, il y a donc un site unique qui est très simple, parce qu'effectivement, pour une fois, ça a été fait assez simplement, maprimerénov.fr. Vous allez directement sur Internet, vous rentrez vos revenus, vous savez exactement combien vous avez le droit en fonction des travaux que vous allez faire. On a beaucoup parlé, Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, de la rénovation, ce qui va vraiment très bien en ce moment, on l'a compris. Bon, en revanche, vous êtes quand même un petit peu inquiet pour 2021 du côté du neuf. Hein, ça représente 50% de l'activité du monde du bâtiment. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les permis de construire sont en ce moment complètement à l'arrêt. Et on sait que même si ça repart, il faut 9 à 12 mois pour que véritablement l'activité reparte. Pourquoi le marché du neuf est à l'arrêt ?
Vous l'avez dit, les permis de construire ont été à l'arrêt. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, le confinement 1, les permis de construire au niveau administratif, instructeur, ont été à l'arrêt pendant 3-4 mois. Mais on le voit bien, hein, le bâtiment, c'est un gros paquebot. Donc quand il s'arrête net, pour qu'il reprenne, les effets, on les voit 9 à 12 mois après. Donc nous sommes très inquiets à partir du deuxième semestre 2021.
C'est là où ce sera compliqué.
Dans 6 mois, parce qu'on a eu moins de 35% de personnes qui désirent acheter.
Pourtant, il y a eu la prolongation de dispositifs. Là aussi, vous avez beaucoup râlé, vous les avez obtenus. Prolongation du Pinel, prolongation du prêt à taux zéro. C'est quand même des dispositifs étatiques qui coûtent très cher. Hein, vous êtes énormément subventionnés et qui ont été maintenus.
Alors, vous l'avez dit, on s'est réellement battu sur le neuf et on a eu des résultats que mi-octobre, fin octobre, parce qu'il a fallu intervenir avec Emmanuel Wargon, que l'on remercie, Jean Castex, que l'on remercie aussi. Et quand on explique simplement les choses, vous savez, on obtient beaucoup. Donc oui, en expliquant tout ça, le risque, c'est le neuf. 50% de notre activité, c'est le neuf. Après, vous parlez de subventions. Vous savez, les subventions, hein, les subventions d'État, c'est aussi simple que ça. C'est sorti cette semaine. Pour 40 milliards de subventions, il y en a 80 milliards de recettes fiscales en face. Donc là-dessus, je peux vous dire, quand on met un et qu'on reprend deux, je voudrais bien jouer à la roulette tous les jours, moi.
Olivier Salleron, vous disiez tout à l'heure qu'il va falloir embaucher. Comment vous incitez les jeunes et les moins jeunes à aller vers vos métiers? Parce qu'il y a plein de jeunes en ce moment qui, avec la crise, se demandent ce qu'ils vont devenir. Comment on peut les inciter à venir vers vous ?
Eh bien voilà, on l'a dit tout à l'heure, les start-up, l'innovation, avec la peinture du monsieur qui est innovante. Voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à récupérer.
Donc vous attendez leurs bonnes idées.
Des jeunes talents, des jeunes talents. L'innovation, on l'a déjà. Je l'ai dit tout à l'heure, on a du retard à nous de montrer la promotion de nos métiers, faire la promotion de nos métiers.
Mais même dans vos métiers traditionnels, vous cherchez des chauffagistes, vous cherchez des peintres, vous cherchez des maçons, et ce sont des métiers d'excellence dans lesquels on peut vite progresser, alors, on peut même créer son entreprise derrière.
Exactement, l'ascenseur social dans le bâtiment, c'est la première des choses. On a quand même réussi miraculeusement, je le dis bien parce qu'on n'y croyait vraiment pas il y a 6 mois, à maintenir l'ensemble des effectifs du bâtiment à l'étal depuis le 15 mars. Donc ça, c'est extraordinaire. Maintenant, oui, on va embaucher. Oui, on a signé d'ailleurs avec le gouvernement la semaine dernière, à Bercy, on l'a vu un peu partout, justement, nos engagements pour l'emploi, l'apprentissage, l'alternance, la réinsertion et l'insertion sociale au niveau des jeunes des quartiers prioritaires de la ville.
Donc il y a de l'avenir pour nos jeunes dans les métiers du bâtiment, c'est ce que vous nous dites, Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Vous restez avec nous jusqu'à 14h. Dans quelques instants, vous allez challenger un projet d'entreprise.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et peut-être encore aujourd'hui, plus que d'habitude, on est très heureux de vous accueillir en direct jusqu'à 14h dans la France Bouge. Pourquoi on est très heureux? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Plus de 100 000 nouveaux auditeurs sur un an. C'est grâce à vous si chaque jour, comme ça, on essaye de mettre en avant toutes ces initiatives, toutes ces réussites françaises d'un point de vue positif. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui dans notre trophée Europe 1, la France Bouge. Il va falloir convaincre notre grand témoin du jour, Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment.
Eh oui, c'est le moment d'écouter une entrepreneur ou un entrepreneur qui se lance ou qui développe son projet, savoir où il en est. Comme vous, bonjour Manuela Duclou.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Polochon et compagnie. Vous avez 47 ans et vous avez mis au point une lampe. Elle est très jolie. Si vous nous suivez en direct là, sur europe1.fr, elle est absolument ravissante. Une petite lampe qui permet aux enfants de ne plus avoir peur du noir. Vous avez créé cette lampe dans un petit village du Beaujolais, à côté de Lyon. Alors, chers auditeurs, éteignez la lumière.
Fermez les
yeux. C'est parti pour votre pitch.
Alors j'ai créé ma société il y a 5 ans, on a mis un an et demi à chercher la lampe idéale pour apaiser les enfants le soir, les rassurer la nuit et surtout donner quelques heures supplémentaires de sommeil à leurs parents. Donc on a lancé Passepartout qui est une lampe complètement adaptée pour les enfants, qui est rechargeable et il suffit de tourner le manche pour l'éclairer. Elle est à la fois ludique puisqu'elle a la forme d'une torche et à la fois très douce, elle peut servir de doudou aux enfants qui s'endorment avec dans la main. Elle est fabriquée en France, on fabrique en région Rhône-Alpes, elle est en démarche éco-responsable, nous assemblons dans un atelier solidaire. Aujourd'hui, on a 110 revendeurs en France, on en a une vingtaine en Europe. L'idée est de pouvoir continuer ce développement avec 250 boutiques et commencer le grand export. On a beaucoup de demandes. On a commencé à industrialiser la production, on a commencé à constituer l'équipe et maintenant on cherche effectivement des investisseurs pour nous accompagner dans ce développement.
Eh bien, bravo. On va révéler les coulisses. Vous êtes entré dans le studio en disant je ne suis pas une pro, je ne sais pas si je vais réussir à bien vendre mon entreprise. Bah, je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui aimerait réussir à faire ce que vous venez de faire.
Bravo, c'est adorable, merci.
Bravo Manuela Duclos pour Polochon et compagnie. Je vous présente Nathalie Carré, parce que Nathalie Carré, c'est notre fée de la CCI. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Elle nous éclaire chaque
jour. Elisabeth, je vais commencer par les femmes. Elisabeth, Manuela.
Je suis toujours le dernier, moi, tout à
fait. Nathalie... Oui, je suis désolée.
Vous, quelles sont les forces et les faiblesses de Polochon Compagnie? Parce que vous avez étudié le projet. Hein.
Oui, alors, votre lampe, elle est jolie, elle est douce, elle est personnalisable avec une lumière qui protège les yeux des enfants, qui évite la lumière bleue, qui empêche l'endormissement. Deuxième point fort, le côté multifonction, une veilleuse quand avant la charge, une lampe pour lire, une torche pour se déplacer dans la nuit, une lampe de chevet en ajoutant un pied. Et puis, elle est éco-responsable, mais elle a un prix abordable et complètement en phase avec le marché. Moi, je mettrais mais un minuscule point amélioré et puis une suggestion. Vos partenaires sont importants, en plus ils sont français. Valorisez-les plus en racontant votre rencontre et leur rôle. Vous les valorisez et en même temps, vous augmentez votre référencement naturel sur Internet. Et puis, une petite suggestion, Science et Vie nous dit que la peur du noir est programmée biologiquement sur toutes les cultures et que c'est la peur la plus répandue.
Même en ça, France, elle est allée nous le trouver. Hein.
Oui, on a 40% des Français...
Mais vous avez un vrai travail à côté, vous avez du temps pour travailler.
Non, mais en fait,
je vais vous embaucher, en fait. Mais non, mais c'est la CCI, ils ont beaucoup de choses à faire et notamment étudier et les pitchs de la France Bouge.
Voilà. Donc en France, on a 40% de la population qui a peur de l'obscurité. Du coup, à quand la version adulte qui ne demande pas de développement supplémentaire, juste un petit marketing
approprié? Votre petite lampe pour vous, Nathalie.
Bah oui, en fait, c'est ça. Je voudrais ma petite lampe pour moi.
Bon, alors qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré-Manuela?
Alors, heureusement pour moi, vous n'êtes pas la seule à le demander. Et du coup, on travaille effectivement sur des designs qui sont moins enfants. On a commencé à les lancer en fin d'année dernière, avec notamment des parents qui avaient acheté pour leurs enfants et qui, derrière, s'équipent avec des modèles plus adultes en design.
Toute la famille a peur du noir.
Voilà.
De quoi vous avez besoin aujourd'hui? De lever des fonds?
Oui, aujourd'hui, j'ai besoin de lever des fonds. J'ai besoin de 450 000 euros pour à la fois constituer du stock, parce que je suis toujours en demande entrante et je suis toujours limitée en termes de production. Et j'ai besoin également pour accompagner la constitution de l'équipe et des salaires le temps que le développement arrive, et également pour lancer le grand export.
Olivier Salleron, vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Vous êtes vous-même entrepreneur, on le dit depuis le début de cette émission. Je crois que vous avez repris l'entreprise familiale de chauffage. Quel regard vous portez?
Écoutez, déjà, c'est un regard sur l'innovation, sur la jeunesse, sur les enfants, sur une entrepreneuse qui est ultra motivée.
On l'entend.
Qui a un produit qui plaît, apparemment. Quand j'ai vu rentrer ici, et ces produits ont été mis directement sur les comptoirs, tout le monde s'en est approprié. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Donc oui, pour les enfants, je trouve que c'est magnifique. C'est un design très, très joli.
Si elle venait vous voir, c'est pas un chauffage, mais si elle vient vous voir, quels conseils vous pourriez lui donner?
Alors, bien sûr, elle a dit elle-même, on a besoin d'investissement, d'investisseurs, quel qu'il soit, parce que pour développer une économie, quelle qu'elle soit, même une économie douce comme ça, aussi charmante, eh bien, il faut de l'argent. Et voilà, il faut le dire. Donc là-dessus, oui, il faut aller à la pêche aux investisseurs. Moi, j'ai aucun souci pour madame. Je crois que ça va bien, bien fonctionner. Tant mieux, parce que voilà, il ne faut pas tomber en crise de croissance. Il faut évoluer, et tout le temps évoluer. Après les enfants, les adultes, pourquoi pas
les grands-parents
sur les chantiers du bâtiment?
Sur les chantiers du bâtiment, il y en a la
baliser,
nuit. Il y en a la nuit parfois.
Zones un petit
mais
peu.
Ouais, ça ressemble un peu.
Peut-être, et peut-être pour rassurer aussi les futurs bébés qui vont devenir entrepreneurs ou apprentis dans le bâtiment.
Ça va nous suivre toute la vie. Formidable.
Et ce manche, peut-être que c'est aussi peut-être un outil, futur outil du bâtiment.
Outil du bâtiment. Il y a peut-être des choses à faire entre Polochon et compagnie et la Fédération française du bâtiment. En tout cas, merci à vous, Manuela Duclos, et on vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Et notre fée lumière, Nathalie Carré, on la retrouve demain si vous aussi vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengée par notre patronne ou notre patron du jour. Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidates en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, vous restez encore un petit peu avec nous pour la suite et la fin
avec
de notre émission.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, ça passe chaque jour trop vite. Déjà, dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Olivier Salleron, qui est le président de la Fédération française du bâtiment.
Et Demain au travail, qui met en avant ces entreprises qui mettent tout en place pour améliorer le bien-être de leurs salariés. Aujourd'hui, nous passons un coup de fil à RS Copenhagen. C'est une entreprise qui distribue et qui vend du matériel électronique et électrique. Elle fait tout par ligne ou à partir de catalogues. Et là-bas, le télétravail est maintenu à 100% pour tous les salariés. Bonjour Céline Centeno.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Merci à vous d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes la DRH de RS Components, 500 salariés dans votre entreprise située à Beauvais. Et chez vous, pas de retour sur site avant au moins le 1er mars. Ainsi, vous avez lancé des tas d'activités pour maintenir la cohésion. Qu'est-ce que vous avez mis en place ?
Oui, exactement. Donc, faut savoir que j'ai 300 salariés actuellement en télétravail, donc depuis le mois de mars. Donc, au mois de mars de cette année, ça fera un an. C'est l'objectif, c'est de maintenir. Oui, tout à fait.
Un an. Vous dites ça comme ça.
Exactement.
Un an, vous n'êtes pas venu du tout.
Un an qu'ils ne sont pas venus du tout, effectivement. Oh là là. Ouais. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de maintenir le lien social, la convivialité, la communication. Donc, il a fallu se réinventer. Donc, on travaille avec acharnement, avec la communication interne pour
proposer
des choses.
Alors, vous faites quoi de façon
choses.
Concrète ?
Alors, de manière concrète, on a mis en place, par exemple, des séances de yoga et de sophrologie, donc en direct pour les collaborateurs, donc bien évidemment digital, via Teams, qui est notre grand outil de travail aujourd'hui. Donc, les collaborateurs se connectent. Ils ont également la possibilité de voir la séance en replay. On met également à disposition donc, des machines à café virtuel où les gens peuvent prendre un café, donc ils prennent leur vrai café à eux chez eux, mais ils ont la possibilité d'échanger avec des collègues, des after-work virtuels également. On a maintenu pendant les fêtes de Noël le calendrier de l'Avent virtuel. Enfin, voilà. Faut vraiment
Les salariés s'en saisissent ?
Oui, tout à fait. Les salariés s'en saisissent. Donc, on a à peu près entre 30 et 40 personnes qui utilisent les sessions, donc soit en direct, soit en replay. Là, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait proposer d'autres pour justement aider au bien-être. Et on a lancé là, très récemment, la semaine dernière, tout un grand programme d'accompagnement avec une cellule psychologique parce qu'on sait que le stress et le télétravail peut être très contraignant pour les collaborateurs. Donc, on a lancé, c'était très très bien accueilli, un programme pour justement avoir une écoute par des psychologues professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que quand on annonce que le retour sur site, c'est pas pour aujourd'hui, et il faut gérer le télétravail actuellement. J'ai également des collaborateurs, on a un entrepôt, donc j'ai 180 personnes qui elles travaillent tous les jours sur site.
C'est pas du télétravail, mais tout de même vous soutenez vos 300 salariés, Céline Centeno, près de votre entreprise RS Components, qui ne sont pas allés sur site depuis le mois de mars dernier et ça risque de continuer. Vous en prenez soin, vous les bichonnez et vous avez bien raison. Merci à vous Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment, de nous avoir accompagnés tout au long de cette France Bouge.
Emmanuel, on parlera de quoi demain ?
Demain, ça vous concerne Emmanuel, c'est le Dry January, c'est l'alcool sans alcool.
Ouais. Mais moi, c'est même des mois maintenant.
Ça fait des
alcool.
Mois et bravo, on vous félicite. On va en parler demain avec tous ces acteurs français qui se lancent sur ce marché de l'alcool sans alcool. Et vous allez voir, ils sont très intéressants, ils sont très nombreux. Ce sera demain à partir de 13h. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelatte.